Pensioner Corner, a European Commission podcast.
Bienvenue dans notre espace de parole dédié aux pensionnés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Attilio Staiano, qui va nous parler des soins palliatifs. Alors, bonjour Attilio.
Bonjour.
Pouvez-vous nous raconter d'abord quelles étaient vos responsabilités avant de partir en pension ?
Et moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années à la Commission dans l'innovation, dans la recherche industrielle.
Et après, en fait, quand vous êtes devenu pensionné, qu'est-ce qui vous a amené vers les soins palliatifs ? Quel était l'élément déclencheur qui vous a amené vers les soins palliatifs ?
Moi, j'avais côtoyé la mort dans ma famille dans diverses occasions. D'abord, ma grand-mère, qui quand j'étais encore à l'UNIF, elle est morte dans la paix, accueillie dans notre maison quand elle était malade. C'était une fête de l'avoir avec nous. Elle est morte avec une sérénité qui m'a enlevé toute peur de la mort. Ça, c'était très important dans ma vie, de voir que ma mère était capable de rendre la vie belle à sa mère, même si elle était alitée. Ça m'a aidé beaucoup par la suite. Et encore, j'ai eu des choses tristes, que j'ai accompagné mes parents, mais surtout que ma compagne de vie, elle était très jeune, nous avions 40 ans à l'époque, elle est morte très rapidement avec une grave maladie, et j'ai eu moyen de l'accompagner pendant une année, qui était quelque chose qui a changé ma vie. Et j'ai compris que c'était possible de rendre la vie belle, même si on sait que les jours qui nous restent sont limités, et que j'avais moyen de la rendre heureuse. Elle est morte heureuse. Ça, c'était le plus grand cadeau que je pouvais avoir par elle, de savoir accepter d'être comblé pour ce qui était possible à ce moment, et savoir que tout son projet de vie avait été déjà vécu. Elle n'avait pas besoin d'autre chose parce qu'elle avait rencontré l'amour. Parce que finalement, c'est ça la chose importante, de créer des priorités dans ma vie et savoir que si je peux garder ce qui est la chose forte de ma vie, alors je n'ai pas besoin de conserver mon jardin ou mes livres ou mon compte en banque.
C'est vrai, ce que vous dites, c'est très juste. Je pense que ce genre de situation nous fait ramener, pour finir, à l'essentiel. Et c'est important aussi d'élargir son point de vue et de ne pas rester dans son silo, ne pas penser qu'au travail tout le temps. Il y a aussi des choses importantes dans la vie, les êtres chers, et profiter de la vie et bien vivre. Et aussi, je voulais vous demander, donc, vous êtes allé vers les soins palliatifs et vous avez créé quelque chose grâce à cette expérience. Vous avez créé une ASBL, c'est bien ça ?
Non.
Une association ?
Non.
Où vous faites partie d'un mouvement ? Comment ça se passe ?
Moi, quand je suis allé à la retraite, pendant une dizaine d'années, j'ai fait autre chose. J'ai enseigné aux États-Unis et en Italie sous des thèmes liés à la politique industrielle qui était mon but, mon activité à la Commission. Et ça, c'était une belle chose. Je suis très, très content de ces 10 ans qui m'ont, si je peux dire, fait comprendre ce que j'avais fait pendant les 15 ans précédents. Parce que j'ai beaucoup étudié sur la politique industrielle de l'Union européenne. J'ai écrit des livres avec Springer. Et quand j'ai eu 70 ans, mon contrat à l'UNIF n'était pas renouvelé. Et alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'étais très angoissé de ne pas avoir un contact avec les jeunes à l'UNIF. Mais une tante m'a dit, toi tu sais écouter et tu dois aller accompagner les malades. Et en effet, c'était un bon conseil. Elle m'a dit chez qui aller et j'ai rencontré un grand médecin qui avait établi un centre de soins palliatifs dans un hôpital à Bruxelles. J'ai travaillé avec lui une dizaine d'années jusqu'à quand il est mort. Et après avec les autres médecins qui l'ont substitué. Et ça c'était le centre vraiment de ma vie pendant tout un temps. J'ai étudié beaucoup sur les soins palliatifs, j'ai écrit des livres et surtout j'ai eu des rencontres qui m'ont fait comprendre comment on peut être utile dans cette phase de la vie dans laquelle on se sent perdu, tous les rêves sont devient impossible parce que la condition de la maladie nous coince. Avec l'aide de Michel, ce médecin, j'ai compris comment aider les gens à penser positif et voir que la vie était belle, qu'il y a des belles choses qu'on a su réaliser dans la vie, être fier de la vie, être reconnaissant et voir tous les gens qui nous ont aimés, qui nous aiment maintenant encore. Et comprendre qu'est-ce que c'est la chose la plus importante. C'est pas mon jardin ou ma voiture ou ma maison ou mes livres ou mon compte en banque, c'est plutôt les relations humaines, le contact, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime et savoir aussi accepter d'être aimé malgré que je suis mal réduit au fond de mon lit, ravagé par la maladie, peut-être dégoûtant parce que la maladie blesse aussi le corps, pas seulement l'âme. Et con quoi j'ai des rencontres qui me rechargent, qui me font comprendre que il faut pas avoir peur d'aller voir l'ami qui est malade ou l'ami qui souffre dans l'hôpital parce que c'est ça la condition humaine. Et finalement, je sors de chaque expérience enrichie. C'est pas facile d'entrer dans une chambre où il y a quelqu'un qui souffre et on ne sait jamais ce qui va se passer. Il faut avoir le courage d'ouvrir la porte et tout simplement s'asseoir et rester en silence en attendant que le malade nous accorde sa confiance et ouvre son cœur. Ça peut arriver que les grognements deviennent des mots, que les mots deviennent un discours et le discours devient une rencontre. Ça n'arrive pas chaque fois, mais quand ça arrive, ça, c'est la récompense pour tous les investissements que nous avons faits pour cette démarche. Et ça, je pense que c'est très bien pour moi et je pense que c'est très bien pour la personne qui est dans le lit parce que on l'aide à rencontrer avec le sourire, la mort. Ça peut sembler incroyable, mais très souvent, dans le lit du malade près de la mort, moi, je découvre le bonheur. Parce que je les ai aidés à être fiers de leur vie et reconnaissants des relations et de l'amour qu'ils ont partagé.
C'est bien, parce que ça donne du positif. Et aussi, on en discutait un peu avant, il ne faut pas que les malades aient peur de voir leurs amis et les gens qui les aiment, parce qu'en fait, ils ont peur de se montrer malades. C'est ça, on en discutait. Et c'est très important pour la personne qui souffre, justement, de ne pas avoir peur, de se montrer dans un état diminué, parce que c'est ça l'humain, c'est la maladie. On va tous un jour passer par là, et il ne faut pas avoir peur de laisser entrer les gens qui vous aiment et qui viennent vous apporter un peu de chaleur, un peu de paix, comme vous le dites maintenant si bien. Donc ça, c'est très important, je pense aussi, que la peur est d'un côté, nous, en tant qu'amis, on pourra avoir peur d'aller voir le malade qui souffre, mais il y a l'autre côté aussi, le malade pourra avoir peur de recevoir ses amis parce qu'il n'est plus comme avant. Imaginons un homme qui avait, ou une femme qui avait énormément de responsabilités, qui était très bien, et puis tout d'un coup, il se trouve diminué physiquement ou mentalement par la maladie et qui n'ose pas se montrer tel qu'il est. C'est important d'avoir confiance en ceux qui vous aiment, quoi, en fait, hein. Et c'est ça que vous apportez. Je trouve que c'est tellement important que la personne ait confiance et que la confiance soit réciproque dans les deux sens. Et vous nous expliquez très bien que vous arrivez à donner une confiance à la personne que vous visitez et que c'est très beau parce qu'elle commence à se découvrir et à avoir la paix. Et quand vous dites que vous êtes devenue bénévole auprès des médecins, est-ce que vous travaillez avec d'autres amis qui font la même chose que vous?
Ah oui, oui, c'est très important de ne pas être seul. Oui. Et parce que les expériences sont parfois difficiles, il faut avoir un lieu de parole pour nous, pour partager les émotions, ne pas se faire du tort avec cette activité. Et donc l'hôpital nous aide beaucoup avec un service de supervision qui permet de déposer nos angoisses, aussi de clarifier certaines situations difficiles, parce qu'il y a parfois des malades qui nous chassent, des malades qui nous refusent, des malades qui sont agressives, et ça peut être une grande blessure si on ne parvient pas à comprendre tout ce qui se passe dans leur cœur. Et les psys qui nous aident, il y a un psy en permanence dans le service, mais il y a aussi régulièrement des réunions de supervision dans lesquelles on peut discuter entre nous et avec l'aide du superviseur si les choses difficiles se sont passées. Et alors, les difficultés de là vont éclaircir aussi les expériences des autres et on travaille ensemble. Mais pour moi, la chose principale, pour me décharger de la tension de ces visites, c'était d'écrire. Et j'ai commencé dès les premières années à écrire mes expériences. Et ça, c'était très important, c'était comme une thérapie pour moi, pour prendre distance et réfléchir sur ma propre expérience et m'enrichir à travers ça.
Comme vous parlez de l'écriture, Attilio, on peut peut-être présenter vos deux livres qui sont ici?
Oui. Ça, c'est un livre que j'ai écrit en italien et qui a été traduit en 5 langues et qui a eu un certain succès qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres dans différents pays et dans différents lieux. Et c'est une chose très belle parce que ce livre a eu 8 différentes éditions et chaque fois j'ai pu le enrichir avec les nouvelles expériences. Et après, j'ai publié un autre livre qui n'est pas un témoignage, mais un essai sur le problème de la fin de vie et le choix qu'on doit faire entre avoir peur de la mort et fixer la date de ma propre mort en acceptant là où c'est possible, ou aller chercher les lieux où c'est possible d'être piqué avec l'euthanasie, ou bien accepter l'aide d'une nouvelle médecine qui découvre la richesse de la rencontre dans le silence et qui permet de vivre la mort en sérénité, qui sont les soins palliatifs. Alors les soins palliatifs, ça, en soi, ça fait peur parce que ça semble le mouroir, l'antichambre de la mort. Au contraire, c'est les lieux de la paix, les lieux de la de l'attente en sérénité de la dernière étape de notre vie. C'est le lieu dans lequel on peut régler les dossiers qui sont restés ouverts. Et c'est le lieu où on peut découvrir que ma vie était belle et qu'il faut être reconnaissant pour ça. Et alors, c'est très important que quelqu'un dans la famille, quelqu'un est malade ou souffrant, qu'il sache que la médecine, c'est soulager la douleur et sans endormir. Et que donc, on peut avoir encore des relations humaines, même si on est en fin de vie, et dans la lucidité. Certainement, ça ne va pas résoudre chaque cas. Il y a des situations dans lesquelles il y a une telle angoisse que la seule solution qu'on peut proposer, c'est la sédation. La sédation, c'est une forme de s'endormir et accueillir la mort dans le sommeil. Et c'est autre chose que se laisser tomber par la fenêtre, parce que c'est beaucoup plus doux. Et ça permet aussi à l'entourage de savoir qu'on a tout fait pour alléger ce passage qui parfois peut être assez compliqué.
Oui.
Moi, dans mon expérience personnelle, ma compagne avait demandé, après des longs mois à l'hôpital, de pouvoir rentrer chez elle, parce qu'elles sont les repères de la maison qui nous ramène au moment de bien-être, d'échange, d'amour et de sérénité. Donc, l'hôpital ne voulait pas la laisser sortir, mais mon médecin de famille m'a assuré qu'il m'aurait aidé, qu'il nous aurait aidé, et comme quoi elle est rentrée à la maison, encore qu'il y avait parfois des interventions nécessaires qui auraient demandé d'être dans une clinique. Mais la compétence et la disponibilité de mon médecin et des amis ont permis de l'accompagner jusqu'à la fin dans sa chambre et dans notre chambre. Dans notre maison, avec tous les signes d'une belle vie qu'on vivait ensemble. Et ça, c'est un cadeau pour lequel nous étions très reconnaissants.
Oui, c'est une grande chance que la personne qui souffre puisse être entourée de l'amour qu'elle a toujours eu, notamment dans sa maison et dans tous ses souvenirs qui lui ont apporté une belle vie. Et ça respecte aussi son souhait, aussi, hein,
bien
je
sûr.
Pense. Et je voulais aussi dire qu'on pouvait vous retrouver sous plusieurs formes aussi, parce que vous nous informer aussi des soins palliatifs lors de notre séminaire de préparation à la retraite.
Oui, ça c'est un rendez-vous chaque mois dans cette initiative qui était très utile parce que ça change beaucoup de terminer la vie active et accepter de sortir de la frénésie de notre société et s'accorder le temps du silence, de la réflexion, des loisirs et du choix de quoi faire sans avoir un patron et pouvoir choisir.
Des deadlines.
Oui, oui.
Vous me disiez aussi, Attilio, que c'était très important de se préparer. Il y a des moments où, quand on est très gravement malade, on doit se préparer à la mort, mais ça rejoint aussi la préparation, qu'on doit se préparer à sortir du travail, à aller en retraite et faire des belles choses. Donc, certains choisiront comme vous d'aller aider les malades. Il y a d'autres choses. Mais ici, c'est une belle opportunité, les soins palliatifs, d'aider les autres et de donner du bonheur aux autres qui en ont besoin.
Oui, sans avoir peur d'aller voir quelqu'un qui est souffrant. Parfois, on fait des projections sur soi-même. et on dit, moi, je ne veux pas m'imaginer comme je serai l'année prochaine quand j'aurai encore plus d'années sur le dos. Et donc, il ne faut pas se priver de cette expérience. Il faut savoir que la chose plus... la souffrance la plus grande des malades, c'est la solitude. Il y a énormément de gens qui n'ont pas qui sont restés seuls parce qu'ils sont des veuves ou parce qu'ils sont célibataires, ils n'ont pas une famille et des enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans les dernières années et mois et jours de la vie. Et donc, aller visiter les malades dans les soins dans les maisons de repos, c'est aussi une autre très belle activité et très importante et très riche. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner des amis jusqu'à leur dernier soupir. Et c'est une expérience d'une profondeur et d'une richesse inimaginable.
Oui, je peux imaginer. Et on a parlé de vos livres, on a parlé du séminaire de préparation à la retraite, on a parlé de votre activité de bénévolat pour aller voir les malades. Et alors, on sait aussi vous retrouver sur votre site, où il y a aussi tout ce que vous avez fait comme activité et des interviews que les personnes peuvent visionner.
Et des commentaires.
Et comme ça, les personnes peuvent réaliser tout ce que vous avez fait. Et s'ils sont inspirés et qu'ils veulent aussi faire la même chose, eh bien, je pense que c'est un bon exemple. Et je vais donner l'adresse. Donc, c'est www.stajano. Alors, on va l'épeler pour être sûr. Donc, c'est stajano.org. O-R-G. Voilà, là vous aurez toutes les informations.
Oui, et si vous voulez savoir plus, il y a moyen de me contacter. Vous verrez sur le site mon adresse. Et si vous voulez savoir comment on devient volontaire à l'hôpital ou visiteur dans les maisons de repos, il y a toute une formation et un accompagnement qui sont indispensables et qui sont utiles et qui sont bien faits.
Oui, on voit que c'est très sérieux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul par rapport à cette activité. Vous êtes bien encadré, il y a un service qui vous encadre psychologiquement et c'est important parce que...
Pour ne pas se faire du tort.
Oui.
Parce que sinon on pourrait être angoissé et plutôt prendre sur soi la souffrance de l'autre.
Oui.
Au contraire, il faut l'accompagner en sachant tourner la page une fois qu'on sort de l'hôpital, on fait une promenade, il ne faut pas prendre le tram, il faut aller à pied à la maison pour avoir le temps
de profiter. Est-ce que vous voudriez nous dire un dernier mot, quelque chose qui vous semble encore très important? Tout ce que vous nous avez dit est important, mais vous voulez peut-être terminer notre interview par quelque chose?
Je pense que il faut savoir que la retraite, c'est un temps béni. Nous avons travaillé dans un endroit qui nous assure une assurance médicale et un salaire tel qui nous permet de tout faire. Et il faut garder un petit espace pour rendre à la société un peu de ce que nous avons reçu et découvrir le plaisir d'aider les autres dans la manière qui est propre à notre condition, et à nos désirs, à nos capacités. Savoir par exemple que du fait qu'on a travaillé à la commission, on doit connaître plusieurs langues, ça c'est une richesse qui peut être utilisée par exemple dans l'aide des jeunes ou des chercheurs d'emploi ou dans la visite dans les prisons ou dans toutes les activités que les mercredis sont présentées dans la belle initiative que vous avez de former à la préparation à la retraite.
Merci beaucoup, Attilio, pour ce témoignage vraiment poignant, riche et très touchant. Merci beaucoup.
Très bien.
Nous sommes très, très honorés que vous soyez venu nous parler de ce sujet.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup. Et à bientôt à notre séminaire de préparation à la retraite.
Au revoir.
Au revoir, Attilio. Merci beaucoup.